Le journal de la rédaction vous est présenté par Tara Schlegel. Bonjour Tara.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Donald Trump devrait envoyer jusqu'à 4000 soldats supplémentaires en Afghanistan. Le président américain l'a annoncé dans la nuit. C'est un changement de stratégie salué sur place par les autorités. Nous serons à Kaboul avec Sonia Ghezali. Le Chili autorise l'avortement thérapeutique, pratique interdite depuis 1989, récit de Nadine Epstein. Et puis en Inde, la Cour suprême interdit la répudiation des femmes, le triple talak. Explication de notre correspondant Antoine Guinard à New Delhi. En France, dernière ligne droite pour les négociations sur le code du travail. Le MEDEF sera reçu en premier à 14h, nous dira Laure Verneau. Et puis nous entendrons le directeur général de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, dans ce journal. Et nous verrons que la marque Jeep pourrait bientôt passer sous pavillon chinois. À 12h45, la grande table d'été avec vous, Géraldine Mosna-Savoie.
Eh bien, au programme aujourd'hui, Tara, une grande table autour des années SIDA, les années SIDA à l'écran, à l'occasion de la sortie du film de Robin Campillo, 120 battements par minute, et du livre de Didier Rodbetoni aux éditions Erosonix, et les années SIDA à travers les arts avec le portrait de l'historienne et critique d'art Elisabeth Lebovici.
À tout à l'heure. Il a donc changé d'avis. Donald Trump s'est laissé fléchir par les analyses de ses conseillers. Le président américain autorise l'envoi de troupes supplémentaires en Afghanistan 16 ans après le début de l'offensive visant les talibans. Contre son instinct, a admis le chef de la Maison-Blanche, instinct qui lui disait que l'Amérique gaspillait son argent à Kaboul, que les GI se faisaient tuer pour rien. Il l'avait même tweeté. Donald Trump renonce donc à un retrait des troupes américaines, un départ qui laisserait un vide qui ne peut que profiter aux djihadistes, disait-il hier soir à la télévision. Pour l'instant, pas de chiffre officiel, mais le Pentagone pourrait mobiliser jusqu'à 3900 soldats supplémentaires, ce qui porterait à plus de 12 000 le nombre de militaires américains. L'OTAN qui déploie 13 000 hommes en Afghanistan, dont les deux tiers sont déjà des soldats américains, assure que jamais elle ne laissera le pays devenir un sanctuaire pour les terroristes. 15 nations mobilisées sur le terrain vont encore accroître leurs efforts en Afghanistan. Sur place, les autorités ont déjà réagi positivement à cette engagement à Kaboul, Sonia Ghezali.
Aucune surprise, le gouvernement dans sa majorité a salué le discours de Donald Trump. Le partenariat avec les États-Unis est plus fort que jamais pour surmonter la menace du terrorisme qui nous menace tous, a réagi le président Ashraf Ghani. Plutôt, c'est le général John Nicholson, le commandant des forces américaines et chef de l'OTAN en Afghanistan, qui écrivait sur son compte Twitter, je cite, « Les talibans ne peuvent être vainqueurs. Il est temps de renoncer à la violence et d'agir pour la réconciliation. » En Afghanistan, on salue la clarté de cette engagement, mais aussi l'insistance du président américain sur le rôle ambigu du Pakistan, un refuge pour les terroristes, a martelé Donald Trump. Les autorités afghanes accusent régulièrement et ouvertement leurs voisins pakistanais de soutenir les talibans et ces derniers ont réagi sans surprise également. L'Afghanistan va devenir un cimetière pour les États-Unis, ont déclaré les insurgés dans un communiqué. Dans la population, les avis sont partagés et certaines voix de l'opposition ne cachent pas leur scepticisme. Les troupes américaines, plus nombreuses dans le passé, ont montré qu'elles étaient incapables de changer quoi que ce soit, selon Faiz Farahman, un analyste politique engagé, une opinion partagée par le parti d'opposition Solidarité. Selon son porte-parole, je cite, « La présence depuis 16 ans des étrangers n'a rien changé, c'est même pire ces dernières années, avec une recrudescence des attaques suicides revendiquées par les talibans. Il faut rappeler que ces derniers contrôlent ou disputent 40% du territoire. »
Sonia Ghezali à Kaboul et puis le chef du Pentagone, Jim Mattis, est en visite surprise à Bagdad. Il vient réaffirmer le soutien américain aux Irakiens dans leur lutte contre Daesh. Les jours de l'État islamique sont comptés, mais le I n'a pas disparu et cela n'arrivera pas de sitôt, a tempéré le secrétaire d'État à la Défense. Bagdad, avec le soutien de la coalition américaine, a lancé ce week-end une importante offensive pour chasser Daesh de la ville de Tal Afat à 70 km de Mossoul. Après les attentats de Barcelone et la mort hier du dernier suspect encore en fuite, la police a retrouvé et abattu Younes Abou Yacoub en fin d'après-midi hier. Les quatre terroristes présumés arrêtés ces derniers jours en Espagne viennent d'arriver à Madrid. Trois ont été interpellés dans le village de Ripoll, au pied des Pyrénées, dont plusieurs assaillants étaient originaires. Et puis le quatrième était à Alcanar quand la police l'a arrêté. Tous sont présentés devant un juge de l'audience nationale qui doit déterminer quelles charges seront retenus contre eux. Et puis en France, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a assuré que les services de sécurité ne connaissaient pas la filière djihadiste démantelée en Catalogne, même si la voiture utilisée sur les Ramblas, une Audi, a bien été flashée en région parisienne le 12 août, 5 jours avant les attentats en Espagne. Au Chili, c'est un combat de plusieurs années qui vient de s'achever par une victoire pour les femmes. Depuis 1989, l'avortement était totalement interdit dans ce pays, quelles que soient les circonstances. C'était l'une des dernières lois du dictateur Augusto Pinochet. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour.
La Cour constitutionnelle a validé cette nuit une nouvelle loi, Nadine, qui va changer la vie des Chiliennes.
Si, oui. L'avortement thérapeutique est désormais autorisé au Chili. Le tribunal constitutionnel vient de rejeter les deux recours déposés par des parlementaires de droite qui contestaient la constitutionnalité de la loi adoptée par le Congrès l'an dernier. Désormais, la loi dépénalise l'avortement dans trois circonstances. Si la vie de la femme enceinte ou de la jeune fille est en péril, si la grossesse est le résultat d'un viol ou si le fœtus souffre de conditions sévères incompatibles avec la vie en dehors de l'utérus. Des vies féminines et des droits fondamentaux protégés, c'est ce que voulait la présidente de la République. Michelle Bachelet avait lancé son projet de loi en janvier 2015 pour mettre fin à la politique de criminalisation de l'avortement. Selon deux articles du Code pénal, une interruption volontaire de grossesse était punissable jusqu'à 5 ans de prison. Et pourtant, des dizaines de milliers d'avortements clandestins ont lieu chaque année. Les chiffres varient de 40 000 à 160 000 IVG réalisés annuellement au Chili. Et d'un sujet tabou, l'avortement est devenu une question grave de santé publique. Le véritable premier pas avait été franchi en mars 2016 à la Chambre des députés, puis en août au Sénat. Les élus avaient adopté une loi autorisant l'avortement en cas de viol, de malformation fœtale ou risque pour la santé de la mère. Cette ouverture réclamée par la chef de l'État chilien était étouffée par la démocratie chrétienne qui s'appuie sur l'argument du droit à la vie inscrit dans la constitution chilienne. Mais maintenant, dès que Michelle Bachelet aura validé la nouvelle loi, le Chili quittera la liste des pays qui criminalisent encore l'avortement, comme le Nicaragua, El Salvador, le Pérou, le Guatemala, pour ne parler que de l'Amérique latine.
Merci Nadine Epstein. En Amérique latine, des autorités colombiennes offrent officiellement l'asile à l'ancienne procureure générale du Venezuela. Luisa Ortega a fui son pays après sa destitution le 5 août dernier. En Inde, cette décision qui émane de la Cour suprême de New Delhi, 3 magistrats sur 5 ont décidé d'interdire désormais la répudiation des femmes, une pratique qui était possible jusque-là dans la communauté musulmane indienne. 180 millions de personnes sont de religion islamique en Inde, 14% de la population. Ces répudiations sont très loin d'être courantes, mais le pouvoir politique en avait fait un enjeu en soutenant les femmes qui s'y opposent, qui s'opposent à ce qu'on nomme le triple talak. À New Delhi, les précisions de notre correspondant Antoine Guinard.
Arbitraire, anticonstitutionnel et allant à l'encontre de l'islam, c'est ainsi que 3 des 5 juges chargés de trancher sur la question du triple talak ont décrit cette pratique controversée qui alimente les débats depuis plusieurs mois en Inde. Cette coutume islamique est une forme de divorce instantané qui permet aux maris de divorcer leur femme sur le champ, simplement en prononçant 3 fois de suite le mot talak qui signifie divorce en arabe. Abolie dans de nombreux pays musulmans dont le Pakistan et l'Afghanistan, cette pratique perdure en Inde où les lois encadrant le mariage et le divorce ne sont pas uniformes et varient selon les religions. En Inde, un nombre non négligeable de cas a été répertorié ces dernières années, notamment avec une augmentation de l'utilisation d'applications en ligne comme Skype ou WhatsApp pour délivrer la sentence irrévocable. Cette méthode de divorce controversée fragilise notamment de nombreuses femmes musulmanes pauvres qui se retrouvent soudainement sans ressources. Certaines organisations musulmanes ont toutefois dénoncé la récupération politique autour de cette polémique par la droite hindouiste au pouvoir. Le premier ministre indien Narendra Modi avait appelé à l'abolition du triple talak l'année dernière et dénoncé ceux qui cherchaient à apaiser la communauté musulmane par opportunisme politique. En mars déjà, une pétition lancée par une organisation affiliée à l'extrême droite hindouiste demandant l'abolition du triple talak avait obtenu plus d'un million de signatures. Quoi qu'il en soit, cette décision de justice a été saluée à l'unanimité en Inde. La Cour suprême a donné 6 mois au Parlement indien pour légiférer sur le divorce dans la communauté musulmane.
Antoine Guinard à New Delhi. En France, les négociations sur la réforme du Code du travail entrent dans la dernière ligne droite. Cet après-midi, le MEDEF ouvre le bal. Les représentants du patronat seront reçus à partir de 14h par Antoine Fouché, le directeur de cabinet de la ministre. Les syndicats de salariés prendront connaissance des textes ou plus exactement des parties arbitrées dans le courant de la semaine. La totalité des ordonnances n'est pas dévoilée pour l'instant. Bonjour Laure Verneau.
Bonjour.
Quelles sont les attentes du patronat qui sera donc, je le disais, le premier syndicat reçu aujourd'hui?
Eh bien, sans surprise, crise, ça concerne la négociation que le patronat voudrait circonscrire aux entreprises et non aux branches. Le but est que les PME et les TPE puissent négocier avec la plus grande latitude possible. Sur Europe 1 ce matin, le vice-président du MEDEF, Thibault Langsade, a déclaré vouloir que dans les entreprises, on puisse, avec les instances représentatives, à défaut avec les représentants du personnel, négocier le maximum de choses dans l'organisation du travail. Ce qui signifie se passer d'intermédiaire dans les négociations et donc passer outre le monopole des syndicats. C'est le plus gros du dossier, mais la partie s'annonce tout de même serrée car les organisations sociales défendent en bloc leurs prérogatives de négociation. Le compromis pourrait consister à négocier avec un salarié hors syndicat uniquement dans les entreprises de moins de 50 salariés. L'autre cheval de bataille du MEDEF, c'est l'extension du CDI de chantier, une demande de longue date. Ce contrat n'a pas de fin écrite, mais se conclut très facilement. Et surtout, même s'il n'a pas de fin prévue, l'employeur a les mains libres pour y mettre un terme à la fin du chantier pour lequel le salarié est embauché et à partir du moment où il n'a pas d'autre poste à lui confier. Pas besoin donc pour l'employeur de passer par un licenciement économique puisque la fin de mission devient une cause réelle de licenciement pour motif personnel. Le MEDEF bataille pour voir ce type de contrat étendu au-delà du secteur du BTP et sa généralisation est d'ailleurs prévue à l'article 2.3c du projet de loi d'habilitation. Ces deux éléments constituent les principaux points d'achoppement entre le MEDEF et les syndicats. Il faudra attendre le 31 août pour voir à quel point la logique de l'employeur a pris le pas sur celle des salariés.
Merci pour toutes ces précisions, Laure Vernouille. Puisqu'on parle réforme du Code du Travail, nous vous le disions hier, l'OIT, Organisation Internationale du Travail, lance une commission qui va pendant 2 ans tenter de dessiner ce que devrait être le travail du futur, comment créer des emplois décents dans un contexte de chômage de masse et de robotisation. Marie Viennot a interrogé le directeur général de l'OIT pour Guy Ryder. L'une des clés d'un avenir meilleur passe par le dialogue social.
Cette initiative part de la conviction que l'avenir du travail n'est pas déjà décidé. Hein. Ça dépend de nous. Ce n'est pas une question purement technologique. Ce n'est pas une question de force du marché. Il s'agit d'une question politique. Il faut qu'on décide l'avenir qu'on veut pour l'avenir du travail. Et là, on arrive à des questions de dialogue social.
Mais est-ce qu'on n'est pas en train de prendre le chemin inverse? Je pense notamment aux pays du Nord et notamment la France. On est plutôt en train de déréguler le marché du travail et de donner moins de pouvoir aux partenaires sociaux. Donc est-ce que ce n'est pas le mouvement inverse qui est en ce moment en cours?
Sans doute. Le dialogue social, le tripartisme connaît des défis en plusieurs pays du monde. Certains gouvernements qui pensent que peut-être le tripartisme, le dialogue social, c'est plutôt un obstacle qu'autre chose à la prise de décision. Et le deuxième problème, c'est là, dans plusieurs de nos États membres, on n'a jamais vraiment connu des processus de dialogue social vraiment efficaces. Donc oui, je suis d'accord qu'il y a plusieurs situations que je pense que sont préoccupantes. Mais pour moi, la réponse la plus adéquate à cette situation est de renforcer les processus de concertation. Et voilà la logique aussi de notre commission sur l'avenir du travail. Avec cet objectif de ne pas croire que la réussite économique passe forcément par la réduction en matière de protection sociale ou des conditions du travail. Hein. Ça, c'est une fausse logique et c'est une logique qui nous a amené à certains problèmes qui existent aujourd'hui. Tous les problèmes du populisme, les inégalités, le sens d'injustice qui est très répandu dans le monde aujourd'hui.
Guy Ryder à Genève, interrogé par Marie Viennot. On va terminer cette possible future acquisition dans le domaine de l'automobile qui montre que la Chine prend toujours plus de place dans l'économie mondiale. Le groupe Great Wall Motor, qui, contrairement à ce que son nom l'indique, est bien un groupe chinois, se dit intéressé par la reprise de la marque Jeep. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Tara.
Jeep est en difficulté aux États-Unis. Il se pourrait donc que cela profite aux intérêts de Pékin et précisément aux intérêts du 7e constructeur automobile chinois.
Oui, si l'opération se confirme, le constructeur espère ainsi prendre une dimension internationale. Alors, si pour l'instant Great Wall, qui veut dire littéralement la grande muraille, ne vend que des voitures sur le marché chinois et n'a aucune relation avec des constructeurs internationaux, contrairement par exemple à Dongfeng, qui travaille avec PSA et Renault, il existe pourtant une logique, un rapprochement avec le groupe Fiat Chrysler, puisque le constructeur chinois est le grand spécialiste des SUV dans le pays. Ce sont ces petits 4x4 de ville. Il représente même détiennent 85% de ses ventes. Rappelons que ce segment, qui est très prisé par les automobilistes en ce moment, représente 40% des ventes en Chine, idem dans les grands pays occidentaux, comme en Europe par exemple. C'est pourquoi la priorité de Great Wall serait pour l'instant de faire l'acquisition de l'américain Jeep, grand spécialiste des 4x4, dont un tiers des ventes se font hors Amérique du Nord. Avec ce rapprochement, le constructeur chinois espère aussi réaliser des économies d'échelle, notamment avec des plateformes communes. De son côté, le groupe Fiat Chrysler indique ne pas avoir été rapproché officiellement par Great Wall. Ça, il faudra bien voir dans les mois à venir. Mais si l'opération se réalisait définitivement, elle signifierait sans aucun doute le démantèlement du groupe Fiat Chrysler, qui détient de grandes marques prestigieuses comme Alfa Romeo ou encore Maserati.
Merci beaucoup à Kim Kasmi. En Italie, les secouristes sont toujours à l'œuvre sur l'île d'Ischia dans la baie de Naples. Hier soir, un séisme de magnitude 4 a tué 2 personnes. Parmi les blessés, 2 petits-enfants, l'un de 7 mois et l'autre de 7 ans, ont pu être sortis des décombres dans la nuit. Et ce matin, un 3e garçon de 11 ans est toujours coincé, mais les secouristes sont confiants. Le temps en France sera variable, mais beaucoup plus lumineux qu'hier sur la moitié nord. Chaud et ensoleillé au sud, il devrait faire 23 à 36 degrés cet après-midi. C'est la fin de cette édition préparée avec Yacine Bouzard.